Radio Capi, grand témoin.
Il est ancien compagnon de Laurent Désiré Kabila, ancien secrétaire général de l'AFDEL et ancien ministre de la Jeunesse et Sport, Vincent Mutombe Tshibale, est celui que grand témoin vous fait découvrir aujourd'hui.
Monsieur Laurent Désiré Kabila assume à partir de ce jour les fonctions du chef de l'État de la République démocratique du Congo.
Le Zaïre n'est plus, l'annonce est saluée dans les rues par des scènes de liesse.
Monsieur Mutombe Tshibale, merci d'avoir répondu à notre invitation.
Merci, c'est moi qui vous remercie.
Alors je disais dans l'introduction que vous êtes ancien compagnon de Laurent Désiré Kabila, ancien secrétaire général de l'AFDL. Vous êtes parmi les premiers soldats qui ont fait partie de l'AFDL, qui sont venus avec Laurent Désiré Kabila jusqu'à Kinshasa. Aujourd'hui, 15 ans après l'entrée de l'AFDL au Congo, quel bilan on peut dresser?
Le bilan que je peux dresser, que d'ailleurs tout le monde sera d'accord avec moi, c'est la fin d'abord de la dictature et la volonté d'instaurer un régime démocratique par l'organisation des élections qui avait été promise quand Laurent Désiré Kabila, au stade des martyrs, avait fait son discours. Il avait déjà promis qu'il allait organiser les élections 2 ans après. Malheureusement, on ne lui a pas permis d'organiser. Mais c'est toujours dans les perspectives de l'AFDL que les élections de 2006 ont été organisées.
On a déjà commencé à parler de l'AFDL, c'est vrai, mais on va parler de vous, du rôle que vous avez joué dans cette alliance. Qu'est-ce qui vous a poussé à adhérer à l'AFDL? Certaines personnes disent que c'est parce que Laurent Désiré Kabila était votre oncle que vous avez adhéré à l'AFDL.
Il se trompe parce que moi j'ai adhéré à la lutte, non à l'AFDL. L'AFDL a existé après. J'ai quitté mon pays vers les années 90, après mes études universitaires. Je me suis rendu à l'est du pays.
Où précisément?
Au Burundi, au Kenya, en Ouganda. C'est en Ouganda que j'ai rencontré un combattant de la liberté qui m'a présenté plus tard auprès de Musée Laurent Désiré Kabila. Il s'agit de M. Ngandou Kisasé, qui était aussi un combattant de la liberté, qui avait organisé un mouvement politico-militaire à partir de l'Ouganda pour lutter contre le régime de Mobutu.
Et donc, vous ne connaissiez pas Laurent Désiré Kabila avant?
Je l'ai connu...
Avant cette présentation en Ouganda?
En tant que quelqu'un qui était intéressé à la politique depuis mes études secondaires, depuis mon jeune âge, je le connaissais par les photos, mais je ne l'avais jamais vu. Même si il est arrivé que c'est une coïncidence que nous soyons de la même province. Mais lui, quand je me suis présenté auprès de lui, on m'a présenté auprès de lui, il m'a demandé, je venais d'où, je lui ai expliqué et il m'a identifié.
Il vous a accueilli au sein de son mouvement?
Oui, au sein de l'AFDL. Parce que quand nous avons reconstitué les forces pour lutter contre la dictature de Mobutu, c'est au moment qu'on a constitué l'AFDL. Et moi, je venais avec Ngandou Kisasé. C'est lui qui m'a présenté auprès des musées. Quand nous avons constitué l'AFDL, nous avons évolué dans un mouvement unique qui est l'AFDL.
Mais pourquoi vous avez quitté le pays après vos études universitaires?
J'observais la vie politique de notre pays. Il y avait de l'impasse. Et c'était juste après les massacres des étudiants de Lubumbashi. Moi, je suivais le tout à la loupe. À un moment donné, j'ai dit à ma famille que je voulais sortir du pays. Je ne reviendrai que quand l'ordre reviendra, c'est-à-dire la démocratie, le sérieux. Et je suis parti. Curieusement, j'ai rencontré des personnes qui avaient un programme de rentrée pour renverser la dictature. J'ai abandonné tout ce que je faisais à l'extérieur parce que après que j'ai rejoint le mouvement, j'avais bénéficié d'une bourse d'études, mais je n'ai pas pu l'utiliser. J'ai choisi de lutter, d'être dans les rangs des soldats de ces mouvements politico-militaires avec tous les risques parce que c'est une chance que je sois venu ici.
Alors, vous avez fait vos études universitaires à l'université de Lubumbashi?
Non, à l'Institut supérieur de Bukavu.
À Bukavu?
Oui, l'ISTEM Bukavu.
Alors, vous parlez des massacres des étudiants de Lubumbashi, mais certaines personnes jusqu'à aujourd'hui disent qu'il n'y a jamais eu massacre à l'université de Lubumbashi.
C'est eux-mêmes qui se justifient, parce qu'à l'époque, ils avaient organisé des commissions pour voir s'il y avait massacre. Ce n'est pas à moi de dire s'il n'y avait pas massacre, mais ce que je sais...
Puisque vous dites que vous suiviez les événements à la loupe...
Je peux parler du prétendu massacre, parce que les autorités... autorités étaient impliquées. Il y a même des gouverneurs qui étaient suspendus. Et c'est un désordre politique que je suivais de près.
Vincent Moutombe Tchibal, vous êtes né où ?
Je suis né à Likassi.
En quelle année ?
En 1966, 26 décembre.
Et c'est à Likassi où vous avez passé votre enfance, où vous avez grandi ?
J'ai eu la chance d'évoluer dans plusieurs villes du pays. Une partie de mon école primaire, je l'ai faite à Likassi, puis à Lubumbashi. Après Lubumbashi, je suis allé terminer mes humanités à Kalemie. Après Kalemie, je suis revenu encore à Lubumbashi, mais j'ai été rappelé à Bukavu. Je suis allé à Lubumbashi pour faire l'université, mais ma famille m'avait rappelé, avait jugé bon que j'aille étudier à Bukavu. Et c'est à Bukavu
que j'ai terminé. Votre famille était à Bukavu.
Bon, une partie de ma famille était à Bukavu.
Comment vous expliquez ce tour des villes de la République?
Bon, ça peut faire partie des mutations. Quand quelqu'un travaille dans une entreprise, nous suivons les parents là où ils vont.
Vous êtes marié?
Oui, je suis marié, père de 3 enfants.
Radio Capi, grand témoin.
Revenons à l'AFDL, vous rencontrez Laurent Désiré Kabila. C'était en Ouganda, votre rencontre ?
Dans les maquis.
Dans les maquis, où ? Maquis, c'est vague, c'était où ?
Au Congo, c'est curieux. Hein?
À Fizi ?
Non, bon, c'est dans les montagnes. Bon, avant de signer les accords de l'Émirat, on est parti de quelque part.
Mais pourquoi vous nous dites à l'endroit ? C'est pas un secret, ça fait partie de l'histoire.
Oui, c'est à l'est du pays.
C'est toujours vague, à l'est du pays.
Oui, à l'Émirat.
Alors, lorsque vous le rencontrez, vous lui dites que vous voulez adhérer à son mouvement parce que vous n'étiez pas d'accord avec le régime de Mobutu qui était en place. Mmh. Et il vous a accepté sans problème, il n'a pas posé des conditions.
Non.
Il vous a fait confiance.
Moi, j'étais déjà dans un mouvement politico-militaire qui était dirigé par Ngandou Kisasi. Quand les deux leaders s'étaient entendus de se constituer en une seule force, il n'était plus question de me demander si j'avais la conviction. Parce que j'étais déjà dans le bain. On avait déjà participé à plusieurs campagnes de militaires contre les régimes dans le Nord Kivu, à Beni. Vous vous rappellerez quand Mobutu était revenu de Nice, il disait qu'il était poignardé dans le dos. Il y avait un groupe qui l'avait attaqué à partir des frontières de l'Ouganda. Moi, j'étais dans le groupe.
Vous avez
déjà en 94. Donc, nous avons commencé vers les années 93, avant que l'AFDL ne soit constituée.
Vous avez suivi des formations militaires ?
Oui.
Toujours dans les maquis ?
Oui.
Alors, racontez-nous un peu la vie au maquis. Comment ça se passe ?
C'est
dur.
C'est très dur parce qu'on abandonne sa famille. Moi, j'avais pratiquement fait plus ou moins 6 ans sans contact avec ma famille. Parce que quand j'ai quitté le pays...
Vous étiez déjà marié ?
Non.
D'accord.
Bon, c'était difficile de se marier parce que, à l'époque d'ailleurs, quand j'ai rejoint le maquis, je n'avais même pas 30 ans. J'ai accepté de suivre M. Ngandou Kisasi. Plus tard, en 96, on a constitué la FDL. La vie des maquis, les maquis, c'est la brousse. Vous comprenez, on passe la nuit à la Belle Étoile, on ne passe pas la nuit à un seul endroit, on fait presque les opérations mobiles, on change de campement à tout moment parce que l'ennemi qui était à l'époque fort ne dormait pas aussi. Il vous cherchait, vous aussi, vous sillonnez toutes les collines, les montagnes de l'Est pour rechercher là où vous pouvez être stable afin d'affaiblir l'ennemi.
Et toutes ces formations militaires dans le maquis, qui vous a donné cette formation?
Nous avons été aidés par certains pays voisins. Nous avons...
Qui vous soutenaient?
Qui nous soutenaient.
Lesquels?
Il y a l'Ouganda qui nous a aidés, il y a le Rwanda qui nous a aidés. Nous avons bénéficié de leur appui et les personnes qui nous dirigeaient avaient aussi une formation militaire.
Mais au maquis, avec cette vie dure-là, est-ce qu'à un certain moment, vous ne vous êtes pas dit dans quoi je me suis, vous n'aviez pas envie de quitter, rentrer, rejoindre votre famille?
C'est difficile, c'était un engagement. Pour moi, c'était un engagement parce que je pouvais bien ne pas être dans les maquis. Parce que j'avais laissé beaucoup d'amis congolais en Ouganda qui cherchaient du travail. Moi, j'avais la chance quand même d'avoir un petit job chez MSF, Médecins Sans Frontières, dans les camps des réfugiés. J'ai travaillé et j'étais parmi les premiers à avoir une bourse. Les rares congolais qui avaient eu une bourse pour aller à l'extérieur, mais j'ai décliné. J'ai décliné parce que j'avais la foi qu'il fallait que je m'engage pour que mon pays soit libéré, même si tout pouvait m'arriver au front, parce qu'il y a des gens qui ne sont plus avec nous. qui sont tombés avant que nous arrivions même dans le Kivu. C'est une chance que je sois là. Donc, c'était un sacrifice.
Vous étiez payé?
Non. Le seul salaire dont nous avions besoin, c'est la nourriture pour avoir la force afin d'affronter l'ennemi. Parce que si vous êtes en train de construire votre maison, vous ne pouvez pas vous dire que vous devez encore vous payer vous-même. Vous vous engagez. C'était un engagement. Il n'y avait pas de salaire. Moi, je faisais des fois des missions. On me donnait l'argent, beaucoup d'argent pour aller accomplir une mission.
Des missions à l'extérieur du Congo.
À l'intérieur aussi.
À l'intérieur.
Mais oui.
Vous étiez en quelque sorte espion.
Nous avons fait tout ce travail-là pour que notre mouvement arrive à affaiblir l'ennemi.
Vous n'aviez pas peur que vous soyez déniché par les services de renseignement de Mobutu à l'époque?
C'était un engagement. Tout peut arriver.
AFDL, Alliance des Forces démocratiques pour la libération du Congo, c'est une alliance qui était composée de plusieurs forces. Lesquelles?
Il y avait les mouvements de libération du Zaïre. Il y avait l'Alliance des Forces de libération, vos forces démocratiques.
À peu près combien?
4. Au départ, il y en avait 4. Mais quand nous sommes arrivés au pays, nous avons estimé que tous les mouvements sont partis. La porte leur était ouverte pour qu'ils nous rejoignent, pour qu'on puisse continuer la lutte aussi pour le développement, pour la stabilité, l'intégrité du pays.
Alors le 17 mai 97, vous arrivez à Kinshasa.
Oui.
Vous avez fait le pied?
Moi.
Est-ce que vous êtes parmi les Kadogo, comme on les appelait, qui ont fait les pieds d'où vous êtes venu jusqu'à Kinshasa? Vous avez fait le pied?
Non. Moi, j'ai, à partir de Goma, du Kivu, très vite, j'ai commencé à organiser le bureau de recrutement et j'étais à un certain niveau dans la classe des dirigeants. Et on planifiait au niveau de l'état-major. Et je ne suis pas arrivé à Kinshasa à pied. Quand les provinces tombaient, les villes tombaient, moi j'ai précédé ou j'allais avant ou après pour réorganiser les services de l'État, notamment les services spécialisés et installer éventuellement les bureaux de recrutement des nouvelles recrues qui acceptent de rejoindre les forces parce que la capitale n'était pas encore tombée. Quand Kinshasa est tombée, 3 jours après, j'ai eu le privilège d'être appelé par Mouzé. J'étais à ce moment-là à Mbujimayi. Il m'a appelé. Je suis arrivé à Lubumbashi. Quand il est descendu à Kinshasa le 20 mai, j'étais avec lui dans les jets.
Et c'était quoi votre sentiment lorsque vous avez atteint la capitale? La mission était accomplie?
Partiellement accomplie. Parce qu'il faut, il fallait que tous les Congolais s'engagent et aient l'amour de leur pays. Donc la mission était en train de s'accomplir. Donc nous avons conquis le territoire, il faut conquérir les consciences des Congolais pour qu'ils s'engagent comme nous dans la lutte pour la libération aussi économique, politique et culturelle de notre peuple.
La population était contente quand l'AFDL est arrivée. Elle s'était dit, enfin on va se débarrasser du régime de Mobutu à cause de la dictature qui régnait pendant ce régime. Mais quelques temps après, cette même population en avait un peu marre de la manière dont vous gériez les choses.
C'est-à-dire?
Vous êtes venu avec des méthodes un peu trop dures.
C'était la loi qui doit être dure. Ce n'était pas l'AFDL qui était dure. Parce qu'il faut, pour que qu'une société se développe, il faut qu'il y ait des règles. Des règles auxquelles tout le monde doit se soumettre.
Oui, règles, par exemple, fouetter les gens. Est-ce que
non,
c'était pas trop ça?
Non, il y avait... On ne fouettait pas les citoyens. Mais... Écoutez-moi, jusqu'à aujourd'hui, vous savez que les chauffeurs de taxi, à l'époque, on avait jugé bon. Ce n'était pas une loi, mais c'était une mesure que certains officiers avaient estimé qu'il fallait mettre en place pour discipliner les chauffeurs et ne pas...
Il n'y avait pas que les chauffeurs
qui
j'y arrive. C'est ça.
Non, non. Il pouvait y avoir bien des déviations, mais ce n'était pas une loi. C'était une méthode que on avait estimé par certains officiers que au lieu de faire descendre ou d'arrêter les taxibus, il faut discipliner les chauffeurs afin qu'il ait le temps d'acheminer les passagers. On les libère au lieu de l'arrêter, de l'amener au PCR ou auprès du bureau de déroulage où on les fait descendre. S'il a excédé, il a pris plus de gens à devant parce qu'on était habitué à 3 places. Dans un taxi, on lui donne 3 fouets, on lui dit continue, ne répète plus ça. C'était une mesure qui les avait aidés.
Mais qui n'enchantait pas la population quand même.
Non, 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 ça c'est dire qu'il n'enchantait pas la population, c'est trop dire, c'est excéder un peu. parce que la population a trouvé son compte dans les taxis. On a respecté les gens jusqu'à aujourd'hui. Si la FDL n'avait pas mis de l'ordre, on allait continuer à voir se mettre dans des taxis en désordre.
À un moment, on a même interdit aux femmes de mettre des pantalons.
Ça, c'était, je dis bien, un peu des ailes auprès de certains officiers. De certains éléments. Ce n'était pas une loi. Il ne faut pas confondre les choses.
Il y a certaines... Oui, mais il n'y avait pas de sanctions à l'endroit de ces officiers. Vous avez laissé passer.
Il y en avait parce qu'on a sanctionné aussi les ministres. Vous le saviez très bien. Il y avait des sanctions.
Alors en 97, vous arrivez à Kinshasa. En 98, une année après, il y a une guerre qui éclate à l'Est. Mmh. Qu'est-ce qui s'est passé?
Il y a... Le processus de libération est aussi compliqué qu'on le voit parce que beaucoup de gens avaient adhérer parce qu'ils avaient leurs problèmes particuliers. Il est difficile de faire accepter ou d'imprégner ou de faire des marchés avec les gens qui ont leurs objectifs. Parce que vous vous rappellerez bien au début, quand la guerre de 98 a commencé, ça n'a pas commencé par rapport aux problèmes internes de la FDL. Ça a commencé par rapport à des prétendues insécurités liées à la présence des forces dites négatives par rapport au régime du Rwanda. Malheureusement, ça s'est mué en une rébellion interne. C'était une campagne tout simplement de déstabilisation de notre pays. Parce qu'après cette guerre, on a eu beaucoup de mouvements qui, malheureusement...
Mais pourquoi une campagne de déstabilisation? Parce que vous avez été soutenu par... Vous avez cité l'Ouganda, le Rwanda. Mais pourquoi ils vont chercher encore à déstabiliser le régime? Est-ce que ce n'était pas parce que vous ne vous êtes pas convenu par rapport aux accords que vous avez signés?
Non, il n'y avait pas d'accord. Le plus grand problème, ce n'est pas... Bon, en fait, il y a des Congolais qui y ont alimenté, qui ont soutenu cela parce qu'ils trouvaient leur compte. Parce que les Congolais, vous le savez, ils sont venus avec le mouvement dit mouvement de libération entre guillemets en 98. Il y a eu massacre. Quand la FDL, il n'y avait pas eu massacre à Kasaka et partout là-bas. C'était une démarche qui était à l'encontre de la volonté du peuple. C'est pour cela, en Djili, on a résisté, même au Kivu, jusqu'à aujourd'hui, il y a eu plus de violations des droits de l'homme avec l'entrée du deuxième mouvement. Mais nous pensons que les problèmes interne dans un mouvement se trouve solution à l'intérieur. Quand les politiques pensent qu'ils doivent trouver leur compte, ils peuvent faire des guerres. Jusqu'à aujourd'hui, il y a des guerres à l'Est. Ce sont des guerres liées aux intérêts des groupes et des individus, surtout sur le coltan, sur ceci, cela.
Mais aujourd'hui, certaines personnes disent que depuis que l'AFDL est rentrée, l'Est n'est plus tranquille. C'est des guerres en guerre.
L'Est n'est pas tranquille parce que certains Congolais pensent qu'ils doivent les déstabiliser pour trouver leur compte.
Une certaine opinion. L'Union estime que l'AFDL est un peu responsable de tout ce qui se vit à l'Est aujourd'hui.
Non.
Parce que, dit-elle, à l'époque de Mobutu, on ne connaissait pas ce genre de problème.
Les problèmes on avait des problèmes d'une façon générale dans le pays. On se soumettait à une seule autorité qui n'avait même pas préparé comment on doit gérer tout le pays. Et les problèmes étaient toujours permanents parce qu'il n'y avait pas...
Je parle de problèmes d'insécurité à l'Est. On ne connaissait pas ce genre de guerre.
Oui, je vais continuer. L'insécurité n'est pas liée seulement au crépitement des balles. C'est aussi lié au social. Le social n'était pas...
Moi, je parle de l'insécurité liée au crépitement des armes, des groupes armés qui naissent tous les jours à l'Est.
Ce n'est pas l'émanation de la FDL. C'est lié à l'intérêt des individus de tous bords. Ce n'est pas seulement l'émanation de la FDL. La FDL avait fait sa mission. Dès que sa mission était terminée, si les autres ont estimé qu'ils devraient continuer à déstabiliser, ils ont leurs raisons liées aux intérêts leurs intérêts.
Alors, monsieur Mouton, en 2001, Laurent Désiré Kabila est assassiné.
Oui.
Vous étiez à Kinshasa?
J'étais à Kinshasa.
Comment vous avez vécu ces moments-là?
C'était une situation dure pour moi parce que c'était trop dur pour moi parce qu'il était quelqu'un qui m'a formé, qui m'a encadré. Et je ne voyais pas d'issue. Je me demandais où est-ce que nous allons. Et nous ne pouvons être forts que si nous restons unis. Nous sommes restés disciplinés. Nous avons observé jusqu'à aujourd'hui.
Vincent Mutomtubal, vous étiez quand même assez proche de Laurent Désiré Kabila.
Bien sûr, j'étais proche.
Vous avez été ministre des Sports dans le premier gouvernement.
Oui.
Qu'il a formé.
Bien sûr.
17 mai 97, 17 mai 2012, il y a 15 ans jour pour jour, depuis que Laurent Désiré Kabila a renversé le régime Mobutu, 15 ans marqués d'abord par le passage du président Laurent Désiré Kabila, ensuite celui de Joseph Kabila à la tête du pays. À l'occasion de cet anniversaire, diverses manifestations ont été organisées dans le pays. À Kinshasa, une messe a été dite dans la cathédrale Notre-Dame du Congo, ensuite une visite au mausolée de Laurent Désiré Kabila. Toute la crème politique au pouvoir a pris part à ces activités. Le 17 mai est devenu journée fériée, mais avec le temps, on constate que les politiciens congolais, même les kabilistes, n'ont pas tous la même conception de ce jour. Dona Madimba pour le reportage.
D'un côté, il y a les kabilistes de la première génération constituée, surtout de ceux qui se réclament compagnons de lutte de Kabila père, ses collaborateurs ou proches au moment de son règne. Il s'agit par exemple de Mwenze Kongolo, Agathe Moulimbi ou Babi Mbaye. Cette première génération considère le 17 mai comme date de réflexion et de prise de conscience pour construire le pays et servir le peuple comme selon eux le faisait Laurent Désiré Kabila.
D'abord, le nouveau régime doit faire participer la femme à la chose publique. Il faut qu'il récupère la situation.
Ils doivent faire un effort pour absolument appliquer les idées de Laurent Désiré Kabila. Les FMI et la Banque mondiale sont revenus en maître chez nous. Or, Laurent Désiré Kabila était quelqu'un qui avait beaucoup de suspicions à leur égard.
Mais de leur côté, les collaborateurs de Joseph Kabila disent comprendre la nostalgie des premiers, mais ils expliquent aussi que selon eux, l'actuel président demeure bel et bien dans la droite ligne du président de fin et que le 17 mai est surtout l'occasion de célébrer l'unité du pays retrouvée et sa marche vers le développement. L'ADG de la RTNC, Christophe Colomoni.
La véritable révolution des infrastructures et de tous les autres domaines de la vie, donc bref, la révolution de la modernité.
Du coup, il faut absolument qu'un jour, le Parlement tranche définitivement sur le sens officiel à donner à cette date.
Vincent Mutomtubal, quel sens vous donnez-vous à la date du 17 mai ?
C'est une date de la renaissance de notre pays, parce que vous le savez bien qu'avant, pendant la période dite de transition de l'époque, la constitution était restée la même, ou bien celle qui était déjà prévue à travers certaines, à l'issue de toutes les négociations politiques étaient mises, étaient dans les archives. Il n'était pas appliqué. Le pays s'appelait toujours Zaïre, n'est-ce pas? Ce n'est que le 17 mai qu'est renée la République démocratique du Congo avec une nouvelle constitution, avec l'ouverture et l'ouverture politique demandait aux politiciens de s'impliquer, d'apporter tout ce qu'ils avaient comme idée afin que le pays soit reconstruit.
Alors on a l'impression que les violons ne s'accordent pas entre les kabilistes, c'est-à-dire ceux qui sont venus avec Laurent Désiré Kabila et le régime actuel. Est-ce qu'il y a un problème particulier? Parce qu'on a l'impression que tous ceux qui sont venus avec Kabila ont été écartés dans la gestion de la chose publique.
En fait, toutes les crises qu'a connues notre pays après la mort de Laurent Désiré Kabila et les crises auxquelles Joseph Kabila a été confronté, c'est d'impliquer certaines personnes qui étaient à la base des foyers de tension à l'Est. Alors que le pays a besoin de la paix, on a malheureusement cru que leur implication à la gestion de la chose publique mettrait fin à la guerre. Malheureusement pas. Ils sont venus résoudre leurs problèmes. Pendant la transition, vous l'avez remarqué, certains acteurs politiques parlaient plus du partage du gâteau. Donc, c'est eux qui devraient d'abord consommer ces gâteaux. Et Joseph Kabila, pour préserver la paix, le président Joseph Kabila avait accepté de les impliquer dans le gouvernement parce que c'était ça la cause de leur soulèvement, de la création, de l'instabilité de l'Est. Malheureusement, il n'en est pas question. Ils sont entrés dans le gouvernement, ils ont parlé plus des responsabilités qu'ils doivent occuper dans les gouvernements, dans les entreprises publiques, alors qu'ils n'ont rien fait pour relancer ces entreprises. C'est pour cela, nous qui sommes venus avec Laurent Désiré Kabila, nous avons estimé que on a donné l'occasion aux individus de résoudre leurs problèmes plutôt que de résoudre les problèmes qui se posent au pays, les problèmes de paix. On a résolu le problème des partis politiques malgré la volonté de Joseph Kabila en tant que président de la République à qui on a demandé d'impliquer les autres dans les gouvernements. Ils sont entrés, mais ils n'ont pas...
Et c'est ça qui ne vous a pas plu. Vous avez décidé de vous retirer vous a écarté.
Nous ne nous sommes pas retirés. Nous devons travailler toujours avec l'esprit de servir le peuple, même si les autres ne veulent pas servir le peuple. Voilà tout ce que je peux dire. Nous sommes les autres parce qu'il y a eu il y a eu malversation financière. Le président s'en est plaint. Il y a eu des gens qui n'ont pas compris. Il ne faut pas que lui-même reste avec le mot reconstruction dans sa bouche. Il faut que ce mot reconstruction soit implémenté dans les esprits de tout le monde. Et on a parlé de l'impunité. Le premier ministre Matata Ponyo a dit que cette année, c'était l'année du social. On doit mieux gérer le pays. Moi, je pense que si il tient à cela, nous l'encourageons pour que on mette fin à l'impunité.
Alors, vous qui êtes venu avec Laurent Désiré Kabila aujourd'hui, je sais qu'il y a certains qui sont dans l'opposition et d'autres qui sont encore dans la majorité, mais qui n'ont plus de poids politique.
Qui ne sont plus actifs, qui restent disponibles.
Qui sont dans la réserve de la République.
On ne peut pas faire l'opposition juste comme principe. On peut donner des idées qui redressent le pays, même si on ne s'appelle pas opposant. Parce qu'il y a des gens qui s'appellent opposants et ils s'opposent à leur propre situation. Si vous leur donnez une position, une place au sein du gouvernement, il y a d'autres gens qui vont s'opposer à eux. Donc, ils se sont opposés par rapport aux avantages qu'ils n'ont pas. Moi, je ne suis pas de cet avis. L'opposition n'est pas un principe de vie. Mais on doit chaque fois s'opposer à des idées négatives. On doit dénoncer ce qui ne marche pas pour faire avancer les choses. Il ne faut pas qu'on ait comme profession opposant. Non.
Mais vous, aujourd'hui, Vincent Mouton-Tibal, on vous situe où? Vous êtes dans la majorité, dans l'opposition, ou bien vous êtes resté indépendant, vous observez les choses?
Je ne suis pas dans l'opposition, parce que j'ai...
Vous êtes dans la majorité, donc?
Je soutiens la majorité, je suis avec les chefs de l'État, même si formellement je ne suis pas aligné là-bas. Mais je pense que nous avons fait une lutte. La lutte que nous devons continuer à faire, c'est donner nos idées pour que le pays avance.
C'est le deuxième mandat de Joseph Kabila. Pendant son premier mandat, le bilan était mitigé. Il y en a certains qui disaient que le bilan était positif, d'autres qui carrément le bilan était négatif. Quel bilan vous dressez du premier mandat de Joseph Kabila?
Sur le plan social, le bilan n'a pas été accompli, parce que je vous l'ai dit encore, je le répète, il y a certaines personnes qui entrent dans les gouvernements pour résoudre leurs problèmes. Nous interpellons, nous demandons à l'autorité suprême, au président de la République, au premier ministre, de faire de sorte que la mégestion, qu'on mette fin à la mégestion, qu'on respecte la loi pour que le pays redémarre. Parce qu'on ne peut rien faire s'il y a des gens qui mettent l'argent, qui gèrent mal les entreprises publiques, qui ne sont pas punis, qui peuvent facilement, impunément construire des immeubles, alors que leur salaire n'est pas à la hauteur de construire des immeubles. Nous pensons que on peut contribuer autrement. Vous avez vu qu'il y a d'autres personnes, acteurs politiques, qui se sont appelés de l'opposition, mais une fois ils ont eu des postes dans le gouvernement, ils se sont transformés en mauvais gestionnaires et ils ne parlent plus. Je pense que ce n'est pas ça l'attitude. Nous sommes des personnes qui sont prêtes, qui restent disponibles à proposer et à dire ce qui ne marche pas pour que le pays avance.
Alors, je vais reprendre une phrase de feu Laurent Désiré Kabila. Il a traité ses anciens compagnons de conglomérats d'aventuriers. Qu'est-ce qui s'était passé? Il était déçu de la prestation de ses anciens compagnons?
Cette déclaration est liée à la guerre de 1998.
Ouais,
parce que certains acteurs politiques ont jugé bon de se laisser manipuler par la mixture des problèmes du Rwanda aux problèmes de la République démocratique du Congo. Parce que vous vous rappellerez bien que en 98, c'est les Rwandais qui réclamaient que l'Est constituait un foyer d'insécurité pour le régime du Rwanda. Alors, comment est-il arrivé que On est parti de l'insécurité du régime du Rwanda à la création de mouvements politiques dont certains ont d'ailleurs disparu. D'ailleurs, beaucoup des Congolais qui étaient à l'extérieur s'en sont servis comme des pirogues. Quand vous montez dans une pirogue en carton, quand vous traversez le fleuve, vous les trouvez. D'autres parties n'existent presque plus sur terrain. Alors, je pense qu'il appartient à nous Congolais de voir qu'est-ce que nous pouvons faire. Nous ne venons pas au gouvernement, nous ne profitons pas des crises pour entrer au gouvernement. Il faut proposer ce qui doit être fait. Il y a des gens qui étaient à l'extérieur, on leur avait jamais refusé d'entrer au pays, mais ils ont jugé bon de rentrer à travers certains mouvements pour lesquels ils n'avaient même pas de conviction. Et ils ont quitté ces mouvements après.
Voilà, Vincent Mutombo-Tchibal, il vous arrive d'écouter de la musique de temps en temps?
Des fois.
Quel genre de musique?
La musique, c'est un problème d'abord de culture. Pas la musique qui parle de l'insanité, des insanités, mais la musique qui cultive, qui peut...
Oui, laquelle? Laquelle vous aimez bien l'écouter quand vous êtes chez vous, dans votre salon ou avec des amis?
C'est une question difficile, hein? Bon, pour le moment, à 90% pour le moment, il faut revoir la musique congolaise. Il faut que la commission des censures joue son rôle.
Donnez-moi le titre d'une chanson. Je vous laisse le temps de réfléchir.
Non, moi, Kozola Kanayo, très impoli.
De Franco.
Oui.
Ben, on va vous proposer cette chanson.
Ozala kanayo très poli, eh. Ozala kanayo très poli, eh. Ozala kanayo très poli, eh. Boninyo,
boninyo salaka bongo. Boninyo salaka bongo bongo. Okolo barikambo yo tala simate. Okolo barikambo yo banga batote. Bonaninyo zalaka très impudique. Okoko tananda kwa bato oyoka sonite. Bonaninyo zalaka bongoye.
Ozalaka na yo très impolie.
Salaka bongo, o koko tananda kwa bato beta porte te, o lekani direct na chambre à coucher, bonaninyo salaka très impoli, bonaninyo salaka bongo, o sukoli monoko tolingi o solo la yona motoi. Bonaninyo salaka mal levé.
Ozalaka na yo très poli, eh. Ozalaka na yo très poli, eh. Ozalaka na yo très poli, eh. Boninyo.
Mokonzi, adio, mokonzi, oligiki, mokonzi. Bona nini osalaka mal éduqué. Bona nini osalaka bongo. Bona nini osalaka bongo. Bona nini osalaka bongo bongo. Okolo valikambo yo tala simante. Okolo valikambo yo banga batote. Bona nini osalaka très impudique. Okoko tananda babato oyoka sonite. Bona nini osalaka bongo.
Osalaka na yo très impoli.
J'espère que cette chanson vous a fait plaisir. Nous sommes à la fin de notre entretien. Que reste-t-il de l'idéologie de Laurent Désiré Kabila aujourd'hui? On a l'impression qu'il est parti avec son idéologie.
Non, je ne pense pas qu'il soit parti avec son idéologie. Parce que même les opposants, même les personnes qui n'ont pas été d'accord avec lui, parce que Ils se sont mis d'accord avec lui, ils ont accepté, ils parlent de la prise en, de l'auto-prise en charge. Je pense que c'est déjà quelque chose de positif. L'auto-prise en charge, c'est donner l'occasion à la société, à la population, à chaque niveau où ils se trouvent, de prendre des décisions. Je crois que c'est une dynamique dans laquelle nous sommes, même quand on a organisé les élections des provinces, le parlement provincial, c'était dans l'idée de la FDL à l'époque aussi. Il faut aller jusqu'au bout, il faut organiser les communes, il faut qu'il y ait des conseils communaux, des structures de prise de décision. Et l'opposition a accepté ça. Et l'opposition s'est mise d'accord avec Laurent Désiré Kabila.
Et qu'est-ce que vous dites à tous ces auditeurs qui nous suivent aujourd'hui partout en RDC et même à travers le monde? Qu'est-ce que vous leur dites aujourd'hui? Surtout pour ceux qui pensent que l'héritage que l'AFDEL nous a laissé, c'est la guerre à l'Est.
L'héritage que l'AFDEL nous a laissé, c'est l'unité, les sacrifices. Mais la guerre, elle est plus liée aux intérêts des individus. Je pense que je vais dire ceci. Il faut que chaque Congolais ait l'amour de son pays et que collectivement, les ressortissants de l'Est et ceux qui ne sont pas ressortissants de l'Est, qui sont à la base aussi des foyers de tension à l'Est, se mettent d'accord pour que nous puissions reconstruire le pays. Nous avons besoin de l'unité, de la solidarité et non de troubles, parce que le trouble de l'Est n'est pas causé seulement par les fils de l'Est. Il y a aussi les gens qui viennent des autres provinces, qui trouvent l'Est comme un foyer fermant, où on peut créer des tensions pour trouver leur compte. J'invite les Congolais à s'engager collectivement dans l'unité, la solidarité pour le développement de notre pays.
Merci Vincent Mutombe Tshibale, grand témoin. C'est fini pour aujourd'hui. Je rappelle que je recevais Vincent Mutombe Tshibale, ancien compagnon de Laurent Désiré Kabila, ancien secrétaire général de l'AFDEL, ancien ministre de la Jeunesse et Sport dans le gouvernement de Laurent Désiré Kabila. Il était parmi les premiers soldats de l'AFDEL qui sont arrivés avec Laurent Désiré Kabila à Kinshasa. Merci à Jean-Claude Ntiala qui est à la technique, au micro, qui l'a écouté. Retrouvez cette émission sur notre site internet www.radioaucapi.net, dans le site de programme sur la fréquence de la paix.